afin de vous aider à réussir votre communication. Conception, réalisation.
Et tout de suite, les infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Bruno Bayala.
Situation sécuritaire au Burkina Faso. 7 des terroristes ayant tué des policiers dans une embuscade ont été neutralisés par les forces spéciales et l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. Le point de sécurisation du territoire national du 28 juin au 4 juillet dernier dans ce journal. Dans la Compiègne, les habitants de Madjouari se sentent délaissés. Sur les 14 000 habitants, il n'en reste plus que 1 000. L'association des ressortissants de la commune appelle donc le gouvernement à agir très rapidement. Au Nigeria, au moins 140 lycéens ont été enlevés dans la nuit du dimanche dernier dans un pensionnat de l'état de Kaduna, localité située dans le nord-ouest du pays. Période de forte pluie au Burkina Faso, quels sont les gestes qui sauvent ou les interdits sous l'orage? On en parle avec le commandant de la compagnie de Ouagadougou, Gira Bambara, est donc l'invité de la rédaction. Bonjour à tous et bienvenue. Un groupe de femmes a été la victime d'un engin explosif hier lundi dans la commune d'Arbinda. Selon des sources locales, très tôt dans la matinée du 5 juillet, alors qu'un groupe de femmes allait à la recherche de l'eau pour les besoins de leur ménage et du bois de chauffe pour leur cuisine, une des charrettes en mouvement a heurté un engin explosif improvisé. L'explosion a tué sur place deux femmes et un bébé. Une autre femme qui a été blessée a vite été transportée dans un centre de santé avec l'appui des forces de défense et de sécurité. Toujours selon des sources locales, à cause de l'insécurité, les hommes n'ont plus la possibilité de se rendre en grosse pour collecter du bois pour des activités champêtres de peur d'être tués par les terroristes. Ces activités sont désormais dévolues aux femmes et aux jeunes filles avec tous les risques que cela peut comporter. Le point de sécurisation du territoire national de la semaine du 28 juin au 4 juillet dernier a révélé que les forces de défense et de sécurité ont été sujets à des attaques des groupes armés. Ainsi, le 29 juin 2021, une unité du détachement de Bassalogo engagée dans l'opération Bélier a été prise à partie par des individus armés dans les environs de Belega-Yanga. La riposte vigoureuse de l'unité a obligé les assaillants à prendre la fuite. Bilan côté ami, rien à signaler. Côté ennemi, une moto et deux fusils AK-47 récupérés. Le détachement militaire de Tankoualou, en coordination avec les VDP, a mis en déroute des individus armés qui tentaient de voler du bétail dans un village non loin de Tankoualou le 28 juin dernier. Le détachement a sécurisé la zone et effectué des opérations de ratissage. Une situation sécuritaire déplorable, des disparitions d'individus, des pertes en vie humaine, une commune dépossédée de ses biens et presque contrôlée par des terroristes. Face à ces multiples maux que connaissent les populations de la commune de Madjouari située dans la province de Kapienga, l'association des ressortissants de Madjouari lance un SOS pour sauver leur commune de l'hydre terroriste ce 5 juillet 2021. Plus rien ne va dans cette commune qui voit ses habitants partis. Voulant donc s'autodéfendre, ils ont exprimé leur besoin au VDP au nombre de 200 et les autorités disent ne pouvoir former et équiper que 25 VDP, mais ils sont toujours en attente de ces formations. Nassir Odani est le porte-parole de l'association des ressortissants de Madjouari.
Deux villages avaient l'espoir de vivre. Depuis le 29 juin, à côté, un ultimatum de 7 jours est donné au chef-lieu de la commune, donc de quitter les lieux.
C'est sur cette route-là que les terroristes sont en train de faire des actions de police de proximité, je vais dire. Quand c'est les terroristes maintenant qui vont contrôler les identités des gens, mais c'est très déplorable.
Toutes les boutiques sont vides, les pharmacies et les magasins. Le carburant est devenu une denrée rare qui s'achète à plus de 3000 francs le litre. Le simple sel qui se vend à 25 francs ici à Ouagadougou n'est plus sur le marché. Imaginez le reste.
À l'instant, Nassir Odani, le porte-parole de l'association des ressortissants de Madjouari, il exprimait la détresse des populations de la Madjouari où sur 14 000 habitants, 12 000 ont déjà été obligés de fuir, laissant derrière eux leurs terres et leurs biens. Et c'est face à cette insécurité que la Ligue des Oulémas, des prêcheurs et des imams des pays du Sahel est en concertation depuis ce lundi à Ouagadougou. Ces leaders religieux vont réfléchir durant 2 jours à la problématique de la radicalisation relative aux activités terroristes et à l'extrémisme violent. Ce atelier se tient autour du thème sur la voie de la radicalisation, l'acceptation de l'autre entre la théorie et la pratique. Le compte-rendu de Chalda.
Ce présent atelier a pour objectif de renforcer les connaissances des prêcheurs, imams et théologiens sur la communication autour de l'extrémisme violent et la radicalisation. Venus du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Tchad, du Nigeria, de l'Algérie, de la Libye et du Burkina Faso, ces leaders religieux sortiront mieux outillés face au phénomène du terrorisme. Imam Nuhun Bakayoko, point focal de la Ligue au Burkina, pense que cela va faciliter la mise en œuvre des textes coraniques en matière d'acceptation de l'autre.
Le développement des thèmes autour de l'acceptation de l'autre en explicitant naturellement la théorie qu'il y a dans les textes, mais beaucoup plus voir des stratégies pour que chacun puisse voir comment l'appliquer au mieux. Également, il y a la 3e assemblée générale de la Ligue qui se tient et qui permettra de renouveler donc les instances de la Ligue.
Plusieurs thèmes en lien avec la radicalisation seront abordés durant ces 2 jours. Ce sera aussi l'occasion pour certains pays de partager leur expérience dans la lutte antiterroriste. Clément Sawadougou, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, salue l'idée de cet atelier qui constitue un facteur important dans la lutte contre le terrorisme.
La lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme ne sera pas gagnée seulement par un combat militaire, mais aussi par la capacité des hommes de bonne volonté à s'investir sur le terrain de la prêche, de la sensibilisation.
Créée en 2013 par 11 pays du Sahel, la Ligue des Oulémas, des prêcheurs et des imams a pour objectif de contribuer à la promotion de la paix et de la lutte contre toute forme de violence au sein des communautés.
Et merci de suivre le journal au ministère des Affaires étrangères où on parle installation de la ministre déléguée chargée de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Clarisse Merundol a pris officiellement fonction ce lundi. Elle remplace à ce poste Maxime Kone, nouveau ministre de la Sécurité. Le compte-rendu de Jamila Topin.
C'est le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, qui a, par cette passation de service, installé Clarisse Merundol Wouba dans ses nouvelles fonctions de ministre délégué en charge de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Et selon le ministre Barry, le choix de Mme Clarisse Merundol Wouba se justifie par ses compétences et expériences. Au ministre délégué sortant, Maxime Kone, le chef de la diplomatie, a adressé ses félicitations pour avoir donné le meilleur de lui-même. Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères.
Vous venez aujourd'hui en tant que ministre délégué et je voudrais vous remercier pour cela et souhaiter que votre arrivée soit fructueuse donc pour ce ministère et souhaiter une bonne collaboration avec le ministre que je suis. Je voudrais juste remercier le ministre Maxime Kone pour les quelques mois de collaboration que nous avons eue, pour la sympathie que nous avons eue dans la collaboration. Et je voudrais le féliciter pour donc la promotion qu'il a eue.
Au terme de sa mission au département de la diplomatie, Maxime Kone a demandé à ses collaborateurs d'hier d'apporter à son successeur le même soutien avec la même détermination et la même ardeur. Maxime Kone, ministre délégué sortant.
Il y a un certain nombre de dossiers, particulièrement qui concernent le ministre délégué, que ce soit le Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur, que ce soit le Fonds, que ce soit la stratégie de l'intégration africaine, que ce soit la stratégie de gestion des Burkinabés de l'extérieur, il y a autant de chantiers qui méritent en tout cas d'être approfondis et mis en œuvre.
La nouvelle promue Clarisse Merundol Wouba dit mesurer le contexte de son arrivée et promet de poursuivre les objectifs fixés. Clarisse Wouba, ministre délégué en charge de l'intégration africaine.
Les défis sont énormes, la tâche est immense et je prends la mesure des attentes en ce qui concerne les objectifs qui nous sont fixés. Je sais qu'avec le concours de chacun et l'aide de Dieu, nous allons donc parvenir à ce succès.
Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a relevé l'importance de son département dans la lutte contre le terrorisme et promet accompagner les ministres de la Sécurité et de la Défense dans leur mission.
Direction à présent la mairie centrale du Ouagadougou, l'initiative présidentielle dénommée Commune Modèle a été présentée ce lundi à Ouagadougou. Un projet qui devra aboutir à la mise en place d'un programme de promotion de Commune Modèle au Burkina Faso au profit des collectivités territoriales. Les détails avec Abdoulkader Konaté.
Stimuler une saine émulation entre les communes afin de les transformer en Commune Modèle à travers l'initiative Commune Modèle. C'est du reste le leitmotiv du gouvernement burkinabé qui s'inscrit dans une dynamique de modernisation des collectivités. Madiara Sagnon, ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation.
Depuis un certain temps, vous voyez, ça fait déjà une décennie que nous sommes dans la décentralisation. Mais c'est vrai qu'il y a eu des choses qui sont faites, mais il y a encore beaucoup de choses qui piétinent. Donc le président a dit qu'on ne pouvait pas en tout cas rester à regarder les choses de cette façon-là. Il fallait trouver un mécanisme pour pousser davantage ces communes, en tout cas, à produire ce qu'on attend d'elles. Ça va permettre, en tout cas, de booster les communes afin qu'elles deviennent vraiment des communes modèles, des communes capables de livrer les services qu'on attend d'elles.
Pour l'heure, 15 communes sont concernées par la première phase du projet.
Voilà, nous démarrons avec 15 communes pour la phase pilote. Donc, nous allons échanger avec ces acteurs-là sur le contenu même de l'initiative Commune Modèle. Et leur dire aussi ce que nous attendons d'eux. Nous attendons beaucoup d'eux. Nous attendons qu'ils s'approprient vraiment le modèle, qu'ils s'approprient le programme, qu'ils nous accompagnent afin que, en tout cas, les résultats que nous visons soient escomptés.
Rappelons que l'initiative Commune Modèle s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD.
Merci à vous, Abdoulkader Konaté. Et dans le cadre de ces activités, l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité procède à l'évaluation des entreprises candidates à la certification de leurs produits conformément aux exigences normatives. Une remise des certificats NBF a donc eu lieu hier lundi à Ouagadougou. Le point avec Valérie Guéret.
Ce sont au total 26 certificats NBF qui ont été remis par la BNorm pour certifier les produits locaux conformes aux marques internationales. La norme NBF présente plusieurs avantages. Haruna Kabore, ministre en charge du commerce, précise que l'un des avantages de cette norme est qu'elle offre la possibilité aux entreprises d'être reconnues sur le plan international.
Tout à l'heure, j'ai discuté avec une autre structure qui a pris la norme donc, pour ses produits, notamment le thé à base donc, de moringa. Et aujourd'hui, ils exportent au Japon. Parce que tout simplement, ça respecte donc les normes internationales et ils n'arrivent même pas souvent à satisfaire le marché. Le miel, c'est la même chose. Nous avons la possibilité donc d'intégrer le marché européen et puis partout ailleurs depuis 2018. Et avec la certification, vous arrivez à vendre et à proposer partout parce que la norme NBF respecte donc les normes internationales.
25 entreprises ont désormais la marque NBF sur leurs produits. Pour Oumar Cissé, conseiller technique du réseau des productrices de beurre de karité des Hauts-Bassins et des Cascades, ce certificat a été une plus-value quant à l'accroissement de leur chiffre d'affaires et des points de vente.
Nous avons pu enfin obtenir en fait ce certificat. Cela dit que ça fait la deuxième année que nous renouvelons en fait notre certificat. Donc cela nous a permis non seulement de disposer des points de vente dans les alimentations, les supermarchés et les salons de coiffure, dans 60 points à Ouagadougou et une cinquantaine de points de vente à Bobo-Dioulasso.
Après avoir réussi l'initiative des 100 produits certifiés, Haruna Kabore, ministre en charge du commerce, compte lancer le projet 1000 produits à coût certifié et à coût partagé. Au total, 165 entreprises ont été certifiées en 2021.
Et nous sommes au Mali pour parler actualité à l'étranger. Au moins 4 soldats ont été tués dimanche dans une attaque. Une attaque menée par un groupe armé terroriste contre un convoi dans le nord-ouest du pays, non loin de la frontière mauritanienne, a indiqué dimanche l'armée malienne. Au Nigeria, dans l'état du Kaduna, parents et habitants se sont réunis hier matin au lycée de Bethel Baptiste dans l'attente de nouvelles des enfants disparus. Lundi, des hommes armés ont enlevé 140 de cet internat situé dans le nord-ouest du pays. Après avoir pris d'assaut le lycée de la zone de gouvernement local de Chikoun, les assaillants ont ouvert le feu et maîtrisé les gardes de sécurité et enlevé 165 internes. Un enseignant a déclaré que 21 élèves avaient pu s'échapper. Il s'agit du dernier enlèvement d'une longue série perpétrée par des gangs criminels qui agissent en masse depuis le début de l'année, avec pour objectif d'obtenir des rançons.
Omega Sport.
Le premier finaliste de l'Euro 2020 sera connu ce soir même à l'issue de la première demi-finale qui va opposer l'Espagne à l'Italie. Et le match se jouera au stade Wembley en Angleterre. On en sait plus avec Bernabé Cabré.
L'une des plus anciennes rivalités d'Europe est de nouveau à l'honneur ce soir. L'Espagne et l'Italie s'affrontent à 20h pour la première demi-finale de l'Euro 2020. C'est la cinquième fois de suite que les deux équipes se croisent dans la compétition. En 2008, les Espagnols avaient éliminé les Italiens en huitième de finale au tir au but. En 2012, ils se sont défiés deux fois, en phase de poule pour un score de parité un but partout, avant que l'Espagne ne signe un large succès, 4-0 en finale. L'Italie a pris sa revanche en 2016 en éliminant l'Espagne 2-0 en huitième de finale. En tout, les deux nations se sont rencontrées 37 fois toutes compétitions confondues. Bilan, 11 victoires pour l'Italie, 11 victoires pour l'Espagne et 15 matchs nuls. L'Italie jouera ce soir sa cinquième demi-finale à l'Euro. Elle a perdu une seule fois en 1988 face à l'Union soviétique et gagné les trois autres. Contre la même Union soviétique en 1968, les Pays-Bas en 2000 et l'Allemagne en 2012. L'Espagne joue également sa cinquième demi-finale à l'Euro. Contrairement à l'Italie, elle n'a jamais perdu. Victoire en 1964 contre la Hongrie, en 1984 face au Danemark, en 2008 contre la Russie et en 2012 devant le Portugal. Pour arriver en demi-finale, l'Italie est sortie leader d'un groupe qui comprenait le pays de Galles, la Suisse et la Turquie, avec trois victoires en trois sorties. La squadra azzurra a éliminé l'Autriche en huitième de finale 2-1 après prolongation et la Belgique en quart de finale. L'Espagne a également dû faire preuve de courage pour atteindre le dernier carré. La Rora a terminé deuxième de son groupe derrière la Suède, mais devant la Slovaquie et la Pologne. En huitième de finale, la bande à Sergio Busquets a fait plier la Croatie 5-3 après prolongation avant de se défaire de la Suisse au tir au but en quart de finale. Un but partout au coup de sifflet final. Autre chose à retenir, aucune équipe n'a jamais remporté deux séances de tir au but dans le même Euro. L'Italie n'a jamais été au tir au but, mais l'Espagne si, contre la Suisse en quart de finale.
Bernabé Cabré, on reste avec vous pour parler cette fois-ci Mercato et vous expliquer que le cas Lionel Messi n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone.
Lionel Messi dispose actuellement du statut de joueur libre avec la fin de son contrat depuis la fin du mois de juin. Cependant, le club catalan dispose bel et bien d'un accord avec le footballeur argentin pour une prolongation. Mais pour l'instant, le récent troisième du championnat d'Espagne se trouve dans l'incapacité de finaliser cette opération, car les Blaugrana disposent d'une masse salariale bien trop importante. Et pour contourner ce problème, le président du Barça compte absolument réaliser un dégraissage massif et rapide dans les jours à venir, d'après les informations du quotidien Mundo Deportivo. Plusieurs joueurs risquent donc de devoir partir très rapidement. Ainsi, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho, Carles Alena, Moussa Wage et Junior Firpo sont poussés avec insistance vers la sortie. Dans le même temps, le Barça envisage aussi une baisse de salaire pour plusieurs cadres comme Sergi Roberto, Gérard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets et Antoine Griezmann. Alain Traoré, Issou Fudayo et Cheikh Djibril Ouattara ont un nouveau coach, Florent Ibengue. Le Congolais a été officialisé hier lundi par le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane, quelques jours après avoir quitté l'AS Vita Club de la RDC. Il a signé un contrat de 3 ans avec à la clé un salaire mensuel estimé à 30 millions de francs CFA. Diriger la Renaissance sportive de Berkane sera un véritable défi pour Ibengue après 9 ans passés à la tête de l'AS Vita. La formation marocaine en pleine ascension a gagné la Coupe CAF l'an dernier avant d'être éliminée dans la phase de poule cette saison. Par ailleurs, en championnat, Berkane occupe une décevante 6e place, bien loin du WAC de Casablanca et du Raja qui joue les premiers rôles. Le grand défi de Florent Ibengue sera donc d'insuffler un nouveau souffle à cette formation et de lui permettre de rivaliser avec les meilleurs clubs du Maroc, d'Afrique et du monde arabe.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Nous sommes entrés pleinement dans la période de fortes pluies, une période où il n'est pas du tout rare de constater d'énormes dégâts. Quels seraient donc les gestes qui sauvent et les interdits sous l'orage? On en sait plus avec Gérard Bambara, il est le commandant de la compagnie de Ouagadougou et il répond aux questions d'Asma Odao.
Bonjour commandant Gérard Bambara.
Bonjour madame.
Alors nous sommes en période de fortes pluies, quels sont les gestes qui sauvent quand on est sous l'orage?
Trois cas peuvent donc se présenter selon que vous soyez dans un bâtiment à l'extérieur ou dans votre véhicule. Alors, si vous êtes dans un bâtiment, restez à l'intérieur, ne sortez pas à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Éloignez-vous des portes et des fenêtres, des téléphones et des installations métalliques. Il faudra aussi donc débrancher les dispositifs électroniques et électriques. Alors, si vous êtes à l'extérieur, mettez-vous donc à l'abri dans un bâtiment. Alors si cela est impossible, il faudra donc trouver un abri où il faut justement s'agenouiller. Alors si vous êtes dans un véhicule, il faut rester dans le véhicule, ne pas toucher les surfaces métalliques à l'intérieur du véhicule, ne pas stationner à proximité donc des grands arbres et couper l'autoradio. Et la chose primordiale à faire naturellement, c'est de ne pas utiliser le téléphone portable.
Alors, comment vous expliquez le phénomène de la foudre? Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a un comportement ou un geste qui peut, en tout cas, attirer la foudre?
Vous savez, hein, la foudre est donc un phénomène naturel. Et par rapport donc aux conseils que nous avons donnés, justement, c'est les conseils à mettre en œuvre. En tout état de cause, il faudra donc travailler à ne pas utiliser le téléphone quand il pleut, que vous soyez donc dans un bâtiment, dans une voiture ou à l'extérieur. C'est vraiment des actions à proscrire.
Et quand vous dites de s'abriter dans un bâtiment, y a-t-il nécessité d'éteindre les lampes? Je parle des ampoules.
Alors, pas nécessairement, mais je l'ai si bien dit, il faut juste travailler donc à s'éloigner de tout ce qui est matériel électronique et électrique.
Et s'abriter sous un arbre?
Ce geste est donc proscrit. Il faut éviter donc de s'abriter sous les arbres. Et comme bien sûr nous l'avons mentionné, il faut donc travailler à rester soit dans un bâtiment. Et quand vous êtes à l'air libre, j'ai plutôt donné un conseil ici. Il s'agit donc de s'agenouiller et de sorte à avoir la tête le plus bas possible du sol.
Commandant Bambara, il y a toute la spéculation tout autour sous l'orage. On ne doit pas faire sa toilette. Est-ce que c'est fondé?
Alors, en tout état de cause, il faudra travailler pendant les orages à ne pas rester donc exposé à tout ce qui peut donc entraîner justement cette décharge électrique là que nous connaissons et qui est la foudre donc sur vous.
On entend parler de l'interdiction de l'usage des parapluies sous l'orage.
Alors, c'est bon, je pense qu'on ne va pas parce que nous-mêmes on ne maîtrise pas ça et ça donc. En fait, c'est des choses qui ne sont pas fondées. Bon, pas forcément fondé, que nous ne maîtrisons pas. En fait, c'est un phénomène quand même assez difficile jusque-là à expliquer, à maîtriser. Mais bon, je pense que c'est ce qu'on sait là qu'on dit. Pas qu'on aime les gens spéculer davantage.
Et autre chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes en face d'une personne qui vient d'être frappée par la foudre.
Alors, il faut donc lui administrer donc les premiers gestes de secours, si vous en avez reçu naturellement la formation. Il faut dire qu'une personne qui a été frappée par la foudre n'a plus donc le courant électrique dans son corps. Alors, il n'est pas dangereux donc de toucher à cette personne. Vous pouvez lui administrer donc les premiers soins et alerter au plus vite donc les services de secours.
Pendant qu'on y est, il faut qu'on en parle. L'histoire des forgerons qui disent que non, on n'a pas le droit de toucher une personne. Oh,
ça, c'est métaphysique, hein, Bado. On ne pourra pas répondre à ça. Ça, c'est vraiment métaphysique. Hein. On peut pas. Je n'en sais rien. C'est pas scientifique. Voilà.
Bon, maintenant, on parle de la circulation routière. Y a-t-il nécessité de rouler, je ne sais pas, un engin à deux roues? L'usage des casques, parce qu'on voit qu'avec les véhicules, il y a un essuie-glace. L'usage des casques sous l'orage.
Alors, l'usage des casques pour la circulation est naturellement une bonne chose qu'il faut encourager, que ce soit en période de pluie ou en période de temps normal. Je pense que l'usage du casque est vivement recommandé.
L'eau de ruissellement. Quand est-ce qu'on peut juger une eau, en tout cas, vraiment dangereuse pour le passage?
Alors, le phénomène de l'eau est vraiment imprévisible. Il faut tout mettre en œuvre pour éviter de franchir les coupures humides alors pendant cette saison d'hivernage.
Commandant Gérard Bambara, merci.
Merci, madame.
C'était l'invité de la rédaction.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 7h15. En attendant, c'est l'équipe Morifène qui vous retrouve tout à l'heure à 6h40 pour une nouvelle édition du journal. Une présentation assurée par Astrid Nikima.
Radio Omega, l'info en direct.